Alors cette année 2021 a été marquée par le 150e anniversaire de la Commune de Paris et ça a donc été l'occasion de revenir ou d'aborder des thématiques telles que l'expérience communarde, les expériences qui se rattachent elles-mêmes à la Commune de Paris, le municipalisme libertaire, le mouvement communaliste, les communs, etc. Revenons tout d'abord à la Commune de Paris. La déclaration au peuple français du 19 avril 1871 indique notamment, je cite, « L'unité politique telle que la veut Paris, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives locales, c'est l'intervention permanente de tous les citoyens dans les affaires locales. » Et plus loin, je cite toujours, « C'est cette idée communale poursuivie depuis le XIIe siècle, affirmée par la morale, le droit et la science, qui vient de triompher. » Fin de citation. Finalement, la commune, cette idée communale, ça n'est pas vraiment une idée neuve, y compris au moment de la Commune de Paris en 1871.
Oui, alors c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait nuancer, dans la mesure où c'est vrai que les communards se réclament de l'idée communale. Ils disent d'ailleurs très précisément, en effet, comme beaucoup de gens à l'époque le faisaient, dès le XIIe siècle, parce que c'est une référence au mouvement historique d'émancipation des communes, des villes, des communes libres, telles qu'elles se sont affirmées, elles ont développé leurs prérogatives en s'opposant aux empereurs, aux seigneurs. Bon, ce sont des choses qui sont assez connues, mais qui sont importantes. Et c'est vrai que les gens de la Commune de Paris ont eu à cœur d'inscrire leur expérience dans ce mouvement historique, pour bien signifier qu'il y a un mouvement, finalement, qui est un mouvement de décentralisation des pouvoirs, qui va à l'encontre de la construction d'un certain nombre de pouvoirs forts, d'États souverains, et c'est une chose qu'il importe de rappeler. Mais néanmoins, il faut comprendre, il faut voir qu'il y a là quelque chose d'assez important, parce que une chose est la référence à ce mouvement des communes qui aurait commencé, et qui a effectivement commencé au XIIe siècle, autre chose est la singularité de l'expérience de la Commune de Paris. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas effectivement rabattre l'invention politique qui s'est fait jour dans la Commune de Paris en 1871 sur le mouvement des communes libres depuis le XIIe siècle. C'est quelque chose d'assez différent, d'assez spécifique. Et il me semble que dans ce qu'il y a justement de décisif et de central, c'est la dimension de l'autogouvernement collectif. Dimension de l'autogouvernement collectif qui a été soulignée à de multiples reprises au cours des deux mois d'existence de la commune par les communards eux-mêmes. Et c'est cette dimension de l'autogouvernement collectif qui me semble quelque chose de tout à fait essentiel. Il n'y a pas de repli sur le local, comme on entend parfois le dire à propos de la Commune de Paris. Il y a au contraire, à travers cette déclaration, comme à travers d'autres déclarations, un appel aux autres communes de France pour former une république fédérative des communes libres. Donc c'est tout à l'inverse de ce que l'on dit d'habitude sur le localisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu à Lyon, qu'il y a eu à Marseille, qu'il y a eu dans d'autres grandes villes, des mouvements qui ont été assez comparables, hein, qui n'ont pas eu peut-être le même retentissement sur le plan national ou international. Mais il ne faut jamais oublier ça. Donc ce qui est important, c'est cette idée qu'on doit reconstruire complètement la République française, parce que ce sont des gens qui se réclament passionnément de l'idéal de la République, mais pas la République qui était celle des Versaillais, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut la reconstruire sur de nouvelles bases. Il faut la reconstruire sur des bases qui soient fédératives. Donc, à partir d'en bas, c'est cette idée-là qui nous paraît tout à fait essentielle dans l'expérience de la Commune de Paris.
Alors, il est difficile d'aborder ces thématiques, hein, sans évoquer le communard Gustave Lefrançais. Mmh. C'est lui qui, quelques années plus tard, en 1874, a écrit sur le communalisme en indiquant ses traits principaux, la double suppression, celle du pouvoir, du gouvernement dans l'ordre politique et celle du salariat dans l'ordre économique. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui relire cette définition ?
Ben, effectivement, Lefrançais est une figure qui est très importante, me semble-t-il, dans la commune et le mouvement communard. C'est quelqu'un qui avait déjà participé à 1848, qui a suivi tout le mouvement ouvrier entre 1848 et la commune de 1871, le grand mouvement qui est très important pour comprendre la commune des associations ouvrières, et puis aussi le mouvement d'assemblée politique et d'autogouvernement politique de la commune. et qui tenait donc à lier ces deux aspects, et c'est l'un des premiers, finalement, si ce n'est le premier, juste après la Commune, à avoir défini le communalisme à travers les deux traits que tu viens de rappeler, de la double suppression du salariat et de l'État. Mais précisément, ce qui est intéressant aussi, c'est que le français était ami avec les anarchistes, il était proche de Bakounine notamment, mais pour autant, dans une brochure, il a bien signifié qu'il n'était pas anarchiste, mais communaliste. Et c'était précisément, c'est pour cette raison qu'il a inventé le terme de communalisme. C'est pour signifier que, selon lui, l'organisation politique ne pouvait pas simplement relever de la spontanéité sociale, mais il devait bien y avoir des institutions qui, justement, devaient relever de la commune, de communes absolument démocratiques, fondées donc sur l'autogouvernement collectif et prenant la forme, comme Pierre Dardot l'a évoqué, d'une république fédérative des communes libres. Et si on veut transposer les choses jusqu'à aujourd'hui, ça va nous amener effectivement peut-être sans doute à une discussion sur les communs, dans la mesure où il y a bien justement dans les communs, il y a un héritage, il y a un héritage de l'associationnisme ouvrier du 19e siècle. Pierre Dardot et Christian Laval l'avaient rappelé dans Commun, même si voilà, peut-être que les communs prennent même des formes plus larges et s'adaptent à des types d'activités au-delà même de ce que le mouvement ouvrier au XIXe siècle pouvait envisager. Mais dans cette discussion sur les communs, il y a cette dimension économique d'organisation des activités à travers l'autogestion et l'autogouvernement, mais il y a aussi la dimension de l'autogouvernement politique. Donc on retrouve aujourd'hui dans les discussions sur les communs cette double dimension, et le travail de Dardot et Laval dans Commun a justement bien mis en évidence la dimension également politique qu'il y avait dans le commun, et pas seulement économique.
Alors on va aborder la question des communs, mais auparavant je voudrais quand même, après avoir évoqué la Commune de Paris et Gustave Lefrançais, je voudrais évoquer Murray Bookchin, qui lui aussi est arrivé au communalisme, mais en passant par le municipalisme. Le municipalisme libertaire repose sur la mise en œuvre d'assemblées populaires de démocratie directe qui restituent entièrement le pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Sur le plan économique, le municipalisme libertaire repose sur la municipalisation des entreprises, ce qui entraîne le contrôle des moyens de production par l'assemblée communale. Murray Bookchin, enfin, accorde la plus haute importance à la question écologique avec une perspective d'écologie sociale. Que peut-on en penser ? Est-ce un bon plan, si vous me permettez l'expression, de municipaliser l'économie ?
Je veux bien commencer à répondre. Bookchin, c'est quelqu'un qui a identifié dans l'histoire occidentale le fait que un certain nombre de mouvements de révolte et de révolution avaient pris la forme de ce qu'il appelle le municipalisme libertaire et de ce qu'il a appelé aussi le communalisme. Hein. Donc, si on s'en chicaner sur les termes, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire le fait que dans des mouvements de contestation de l'ordre établi et de l'ordre étatique, la tendance spontanée à travers lequel les résistances s'organisaient, c'était l'Assemblée populaire démocratique. Donc pour lui, le municipalisme libertaire, c'est ça. Il intervient aussi dans la révolution de 1789, hein, à travers les sections de sans-culottes. Il intervient aussi à d'autres moments dans l'histoire des révolutions américaines, anglaises, et puis donc aussi dans le mouvement d'affranchissement des communes au Moyen-Âge, dans certains cas où il n'y a pas seulement la dimension, si vous voulez, juridique des franchises municipales, mais où il y a aussi une dimension politique d'autogouvernement collectif. Donc finalement, sur le plan politique, l'idée de l'autogouvernement collectif est tout à fait présente dans le travail de Bookchin, mais c'est vrai que pour nous qui travaillons dans ce débat autour des communs, il y a davantage un désaccord sur le plan économique par rapport à la théorie de Bookchin sur la municipalisation d'économie, c'est-à-dire en fait le fait que l'assemblée populaire prend toutes les décisions et contrôle les entreprises finalement sous la forme d'une autorité publique. Bookchin dit que justement se distingue de la perspective qu'on a connue à travers la social-démocratie de la nationalisation des entreprises. Il se distingue de ça en disant municipalisation, mais finalement, à une échelle plus petite, c'est la même forme. C'est la même forme où, dans une certaine mesure, les citoyens se trouvent libres sur le plan politique parce que ce sont des citoyens, chez Bookchin, au sens plein du terme, qui prennent directement les décisions politiques, mais se retrouvent d'une certaine manière subordonnés dans leur liberté économique par les décisions de l'assemblée municipale. Donc là, quand je parle de liberté économique, on peut parler de liberté économique pas nécessairement dans un sens libéral. Les courants socialistes peuvent aussi penser la liberté économique. Et justement, Bookchin, ce qu'il connaissait pas, c'est les communs. Et les communs, ce sont des formes d'organisation dans lesquelles, précisément, les gens sont libres d'inventer des formes économiques dans le respect de l'interdépendance et de la solidarité sociale. Hein, et finalement, en ce sens-là, les communs proposent une perspective... Si on les couple avec l'autogouvernement communal, une perspective qu'on peut même considérer comme étant plus libertaire que celle de Bookchin.
Oui, je pense qu'il y a un point qui est assez important à souligner, c'est ce qu'on peut appeler la différenciation des fonctions. C'est pas parce qu'il y a une remunicipalisation de la production, enfin on peut prendre d'ailleurs de l'économie et de la production de manière générale, on peut prendre le terme de remunicipalisation sans lui donner nécessairement d'ailleurs le contenu que lui donne Bookchin, c'est-à-dire sans imaginer que tout est subordonné aux décisions d'une assemblée communale. Mais c'est le sens que lui donne à municipalisation. C'est vrai d'ailleurs que... À certains égards, moi, je préférerais communalisation plutôt que municipalisation. Bon, c'est pas pour jouer sur des petites nuances, mais c'est vrai que quand on dit municipalisation, on pense à la municipalité telle qu'elle existe administrativement aujourd'hui, dans un cadre tout à fait donné, alors que communalisation ou commune, ça renvoie plutôt à une forme politique qui est à avoir inventée. Donc, c'est ce qui me paraît devoir être plutôt privilégié. Mais je crois que, en fait, quand on aborde cette question-là, on aborde la question de la différenciation entre la sphère économique ou la sphère de la production et, d'autre part, la sphère proprement politique. Alors, je sais bien que d'un certain point de vue, on peut dire que tout est politique, mais ça me paraît une dérobade. Voilà, il y a des fonctions dont il faut maintenir la différenciation. Des communs productifs, par exemple des coopératives de production, oui, elles ont à s'entendre entre elles et elles n'ont pas à être d'emblée et a priori subordonnées à une instance supérieure qui serait l'Assemblée communale. Donc il y a une forme d'interdépendance dans le respect de la différenciation des fonctions qui est à trouver et ça fait partie de l'invention politique du communalisme au bon sens du terme.
Alors justement, puisque tu évoques les communs de production, est-ce qu'on peut, peut-être, si on peut être plus concret, donner quelques exemples. Un exemple de coma de l'alimentation, de coma de l'éducation, de coma de l'emploi, de coma de la santé, coma du logement, coma de la culture, coma des transports, enfin, etc. Coma des moyens de communication et de l'information. Est-ce que on peut aujourd'hui citer des exemples ou imaginer des exemples de ce que ça pourrait être ?
Bon, j'en cite juste un comme ça, parce que ça m'est venu à l'esprit pendant la crise sanitaire, le début, hein, c'est-à-dire le premier confinement. Il y a eu dans différentes régions de France des choses assez remarquables qui se sont passées, des collectifs qui ont réémergé ou qui se sont constitués, qui se sont réinventés parfois, et qui se sont constitués autour de la question alimentaire. Alors, il y avait bien sûr ce qu'on a appelé les brigades de solidarité dans un certain nombre de villes, justement, de municipalités, pour venir en aide aux plus démunis pendant la crise sanitaire. Mais il y a eu aussi quelque chose dont on a relativement peu parlé. Il y avait une enquête qui était assez bien faite sur Mediapart sur la floraison de ces collectifs-là. Il y a des collectifs qui sont dédiés à la production alimentaire. Donc des collectifs qui ambitionnaient de réunir la consommation et la production. C'est-à-dire pas simplement... Bon, quand on parle de coopératives, par exemple, de consommation, on voit des gens qui sont amenés à se réunir, ils se coalisent pour faire des achats. Bon. Mais ça ne va pas au-delà. Hein. Donc la coopérative de consommation a des limites qui sont assez évidentes. Or là, ce qui me semblait assez important, c'est que c'est des gens qui ont, dans le Bocage, à Nantais, en Loire-Atlantique, etc., dans d'autres régions de France, sont des gens qui se sont dit « Mais si on n'arrive pas à intégrer le circuit de la consommation et de la production dans un tout, géré collectivement, à ce moment-là, on risque de revoir des moments extrêmement difficiles, comme ceux qui ont été traversés par un certain nombre de gens et de collectifs pendant la première phase du confinement. Donc, pour éviter ça, il y aurait un moyen, effectivement, de constituer des collectifs dédiés à la production alimentaire, qui seraient installés de façon durable, et qui seraient donc amenés à devenir des institutions d'autogouvernement, pour le dire de manière assez claire. Voilà.
Moi, un point qui me semble très, très important, et pour donner un autre exemple qui est connu, celui de la coopérative intégrale catalane, mais à travers cet exemple-là qui est spécifique parce qu'il a eu une histoire particulière. Bon. Mais au-delà de cette histoire, l'idée de coopérative intégrale, elle me semble très importante. Et d'ailleurs, elle a en partie essaimé. Il y a d'autres coopératives intégrales qui se sont constituées et tentent de se maintenir. Il y a la coopérative intégrale du Berry, il y a des tentatives de coopérative intégrale en Grèce, enfin dans tout un tas de pays, même si ce sont des expériences souvent localisées. Mais c'est l'idée qui est très importante pour moi aussi, que les communs doivent s'associer, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas penser les communs de manière isolée, et ils doivent s'associer dans leur différenciation. C'est-à-dire, voilà, tous les types de communs que tu citais, finalement, on pourrait trouver à chaque fois un exemple typique, pertinent et efficace. Voilà, il y avait des justement pendant la crise grecque, par exemple, il y avait des coopératives de santé qui se sont mises en place, des médecins qui opéraient dans le système public grec, qui ont accepté de donner du temps bénévole pour constituer véritablement des sortes de communs de santé. Sur le logement, on pourrait citer des coopératives de logement. Dans le domaine de l'agriculture, voilà, il y a des AMAP, il y a tout un tas aujourd'hui dans le mouvement néo-paysan, tout un tas d'expériences de communs alimentaires extrêmement, extrêmement intéressantes. Il y a le travail d'une association comme Terre de Liens, par exemple, voilà, qui est une foncière, hein, qui rachète des terres et qui les loue dans des conditions écologiques et sociales favorables à des paysans pour produire une agriculture de qualité. Donc finalement, dans tous les domaines, on trouve des exemples de communs pertinents, mais moi, ce qui me semble le plus porteur aujourd'hui, c'est mais qui est à construire, c'est justement la coopération des communs entre eux. C'est pour ça que dans la coopérative intégrale, il y a l'idée que, en un sens, ces différents communs vont s'associer pour satisfaire, on peut le dire comme on veut, l'ensemble des besoins fondamentaux ou des droits fondamentaux des personnes. Et ça, c'est, pour moi, en tout cas, c'est une ligne de démarcation, pour le dire comme ça, entre, parce que voilà, le terme de commun, aujourd'hui, il est extrêmement disputé. Hein, il y a des visions diverses, alors qui peuvent converger sur certains aspects, mais sur d'autres, en réalité, qui sont assez incompatibles. Et quand on, finalement, quand on restreint l'idée de commun à une seule entité ou à un domaine restreint, on est obligé d'imaginer des systèmes de complémentarité entre l'État, le marché et les communs. Il y a beaucoup, finalement, d'options qui vont dans ce sens-là et qui, en fait, ne sont, risquent en réalité de reproduire des formes de subordination vis-à-vis du marché ou de l'État. Et les formes qui vont le plus loin, justement, pour poser une démarcation vis-à-vis du marché et de l'État, ben c'est les formes intégrales. Parce que, justement, elles permettent... donc cette idée d'association de commun, elle est fondamentalement liée à l'idée d'interdépendance. Mais toute la question est de savoir de qui on dépend. Et donc, si on veut élargir l'idée des communs, il me semble qu'il vaut mieux dépendre d'autres communs plutôt que du marché ou de l'État. Et c'est ça la grande tâche. La grande tâche, c'est d'aller vers la formation de systèmes économiques territoriaux qui seraient des associations de communs de façon à avoir la plus grande autonomie économique possible. Moi, j'aime bien cette idée sur laquelle j'essaye de travailler d'économie des communs sociaux et solidaires pour un peu évidemment faire écho à l'idée d'économie sociale et solidaire, mais aussi volontairement, parce que c'est un enjeu politique aujourd'hui, le rapport entre économie sociale et solidaire et commun. Hein. L'économie sociale et solidaire, c'est un fourre-tout très, très divers, très varié, avec des expériences qui vont dans le sens de l'entrepreneuriat, d'autres qui vont dans le sens des communs. Et parler d'économie des communs sociaux et solidaires, au sens où les communs remplissent des tâches sociales, et au sens, de solidaire comme on l'entend dans l'économie sociale et solidaire, mais au sens de la solidarité des communs entre eux, ça me paraît une idée intéressante pour marquer le fait finalement qu'on pourrait réorganiser entièrement l'économie autour des communs, mais il faut franchir cette étape supplémentaire de l'association.
Oui, juste un petit point qui a son importance, c'est qu'il faut savoir qu'en fait, à la fin du 19e siècle, quand il y a eu l'essor du mouvement coopératif, il y a eu justement différentes phases. On a commencé par les coopératives de consommation, ensuite par les coopératives de production, et puis enfin par les coopératives intégrales, puisque ça a été imaginé comme ça. Donc il suffit de lire par exemple un livre comme celui de Martin Buber, qui s'appelle Utopie et socialisme, et il montre très bien ce chemin-là, la façon dont ça a été y compris théorisé, mis en forme par des gens comme Kropotkin, par d'autres, et cette idée de la coopérative intégrale qui devait unir en une forme de vie finalement justement intégrative et intégrale, aussi bien l'aspect consommation que l'aspect production, est une idée qui est amenée, à mon avis, à gagner en force, parce que c'est une sorte de défi à relever. Ça nous oblige justement, avec le mouvement des communs, à réinventer les choses qui sont très anciennes. Mais c'est comme ça qu'en général les choses progressent. On ne refait pas entièrement quelque chose de neuf à partir de rien, on refait du neuf à partir de quelque chose qui est assez ancien.
Peut-être pour rester là-dessus, hein, et en guise de conclusion provisoire, donc les communs doivent s'associer, l'association des communs. Alors si on généralise... Hein, si on généralise ce que tu viens de dire, Pierre, ne pas rester sur l'exemple d'un commun, mais si on généralise, qu'est-ce que ce serait qu'une vie en commun, qu'une société en commun, qu'est-ce que ce serait qu'une cité en commun, comment ça se passerait? Là, je ne demande pas d'exemple, hein, mais comment on pourrait imaginer ça, quoi ?
Alors, c'est difficile, hein, parce que je pense que, par exemple, ça ne serait pas une imagination, il ne faut pas mettre en œuvre une imagination architecturale du type de celle qu'on avait un peu trop tendance, justement, à échafauder à la fin du 19e siècle, où on concevait comme ça les choses comme s'agençant à la manière d'un plan architectural. Il y a des utopies qui sont particulièrement révélatrices de l'état d'esprit qui pouvait exister à la fin du 19e siècle. Mais je pense qu'on est dans une situation qui est assez différente, où aujourd'hui, on a parlé avec Pierre, justement, d'expérimentation pratique qui propose des formes de vie alternatives. Et je crois que c'est de là qu'il faut partir pour imaginer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas imaginer un plan de société tout fait qu'on chercherait ensuite à appliquer. Parce que ça a été l'un des travers de l'utopisme de la fin du 19e siècle. Il faut considérer ce qui s'invente pratiquement, ce qui s'expérimente ici et maintenant, aujourd'hui, et puis ensuite se proposer de prolonger à travers l'effort de l'imagination ce qui se dessine pour voir comment ça pourrait s'agencer. Et je pense que c'est ça, en l'occurrence. Une société du commun, c'est pas une société... Alors, c'est pas simplement une société en commun ou une société ou une vie en commun. Parce que finalement, l'expression vie en commun ou société en commun, ça a été utilisé à plusieurs reprises par le passé et même bien avant le 19e siècle. Mais il faut considérer ici qu'il y a une société du commun. Donc, une société du commun, c'est pas nécessairement une société où tout est commun, hein, au sens où certains mouvements millénaristes, religieux, pouvaient le dire à une certaine époque en se référant aux évangiles. Non, il s'agit d'une société dans laquelle prédomine la logique du commun. Il s'agit d'une, c'est très différent, hein, mais déjà, ça, on peut essayer de se demander à quoi ça ressemblerait. C'est-à-dire une société qui privilégie la logique du commun, qui met la logique du commun en son centre. Ce n'est pas une société qui supprime toute initiative individuelle. Ce n'est pas du tout une société qui est amenée à enrégimenter les individus en leur imposant un modèle unique, etc. Justement, Pierre l'a dit tout à l'heure, et ça me semble très important, il faut être capable, justement, dans l'effort d'imagination, de faire une place absolument décisive à la diversité des expérimentations et des formes de vie. Et ça doit se retrouver dans la société qu'on imagine. Sinon, ça ne vaut absolument pas la peine. Il faut qu'on soit capable d'imaginer une société dans laquelle il y ait place pour des formes de vie différentes. Voilà. Ça, pour moi, c'est fondamental.
Bien, je vous propose de conclure cet échange en vous donnant à l'un et à l'autre la parole, peut-être pour quelques... On n'est pas sûr qu'on n'a pas abordé, mais enfin, si vous aviez encore envie d'aborder sur cette question des communs.
Peut-être juste pour répondre à, ou essayer de compléter à la question que tu viens de poser sur cette société des communs, finalement, on pourrait, ou cette société commune, ça impliquerait nécessairement justement des temps politiques d'échange entre la diversité de ces expériences. Parce qu'il est absolument indispensable de maintenir cette diversité, mais pour qu'il y ait une possibilité d'association des communs, un peu comme à Notre-Dame-des-Landes, il y avait l'Assemblée des usages. Bon, il y a des choses très importantes à retirer de cette expérience-là, où il y a des temps politiques où finalement les différents communs puissent se coordonner et débattre de cette coordination. Sinon, elle n'est pas possible. Donc, c'est une formule qu'ont souvent utilisé Pierre Dardot et Christian Laval. Le commun doit être institué. Le commun doit être institué, et il faut aussi instituer des temps à travers lesquels, justement, on va pouvoir mettre en place ce type d'association. Et donc, c'est une société dans laquelle il y aurait davantage, sans doute, de temps commun. Mais ces temps communs, après aussi, peuvent précisément, justement, aussi... organiser la place des libertés individuelles. Voilà, donc c'est pas du tout effectivement le modèle d'une vie communautaire intégrale, quoi. Et moi, juste pour un dernier point pour conclure, parce que dans les il y a un concept qui justement me semble important aujourd'hui. Il est présent dans les discussions sur les communs, mais pas toujours en France. C'est l'idée de commoning. L'idée de commoning, bon, qui est aussi voilà, la pratique de la mise en commun. Hein, la pratique de la mise en commun. Et ça, c'est important pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Bookchin et par rapport à la critique de la municipalisation de l'économie. C'est-à-dire que le problème de l'idée de municipalisation de l'économie, c'est-à-dire finalement, elle ne permet pas de penser véritablement une transformation de l'économie telle qu'elle est. Elle met simplement la force de l'autorité politique des assemblées comme une manière de réguler cette économie pour lui donner des formes redistributives et égalitaires. Alors que l'idée de commoning, c'est vraiment l'idée que nos activités économiques doivent être tournées vers la mise en commun, à l'intérieur de l'activité, finalement, dans le corps, de l'association, de l'entreprise ou du service public lui-même, hein, mise en commun à l'intérieur, et puis mise en commun aussi vers l'extérieur. C'est la question de savoir à qui les activités sont destinées. Et donc cette idée de pratique de mise en commun et de commoning, elle permet, en définissant finalement un sens de l'activité économique, de vraiment redéfinir une économie tout à fait différente, quoi. Et pas simplement de penser les formes de régulation de cette économie.
Oh, deux mots, hein, c'est que je pense que ce qui a été dit sur le temps a une importance tout à fait décisive. On ne peut pas imaginer, bien sûr, une telle société sans libération considérable du temps. Déjà, première chose, alors, ce qui est assez évident, enfin, en tout cas pour nous, c'est assez évident, ce qui me fait penser à une des propositions qui a été faite dans le cadre de la Convention pour le climat, qui n'a pas été retenue, mais qui m'apparaissait assez radicale, surtout quand on prend comme ça des citoyens lambda qu'on tire au sort, puisque c'était la proposition de passer donc à 28 heures de travail par semaine. Bon. Mais ça, c'est la première chose, c'est un aspect, simplement. Ce qui me paraît important, justement, et c'est le deuxième aspect qui est complémentaire, c'est d'être capable d'instituer, que la société soit capable d'instituer des temps différents. C'est pas simplement libérer du temps, parce que libérer du temps, on dit, voilà, à ce moment-là, il y a une quantité de temps qui est disponible, et finalement, c'est quelque chose d'assez soustractif et négatif. C'est soustrait à quoi ? Aux occupations et au temps de travail. Donc, il ne faut pas avoir cette vision-là. Il faut considérer que le temps, c'est le temps qu'on est amené à libérer, par exemple, dans les coopératives de production, pour discuter entre les activités des producteurs des différentes coopératives, comment on articule justement la production de telle coopérative et de telle autre coopérative. Mais ça vaut aussi, en effet, pour les relations des communes les unes avec les autres. Ça vaut aussi pour les relations des différentes régions les unes avec les autres. Bon. Donc, le temps, l'institution du temps, c'est quand même une chose assez importante à indiquer, ça, l'institution du temps. Parce qu'on parle de l'institution du commun, mais finalement, il n'y a pas de commun véritable à tous les niveaux de la société. Il n'y a pas de société des communs ou du commun s'il n'y a pas une capacité collective d'institution de temps différents.
Bien, merci à tous les deux. Merci Pierre Dardot, merci Pierre Sauvert. Donc je rappelle un commun de Pierre Dardot et Christian Laval. Et puis de nombreux articles sur ces thématiques de Pierre Sauvêtre disponibles sur Internet.